Sur fréquence Mistral 99.3, j'ai le plaisir d'accueillir dans la matinale Nelly Kars et Bruno Lambert des Marcheurs de la Terre qui vont nous parler du film Dame des Lacs. Bonjour.
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 Vous êtes des habitués de fréquence Mistral. On va vous parler d'un film qui va être projeté prochainement. Ça sera à côté de Moustier-Sainte-Marie.
Voilà, alors en fait, le film Dame des Lacs va raconter l'histoire de la nage de Nelly Kars sur tous les lacs de PACA, donc une nage long cours sans assistance et en autonomie complète qui a été réalisée au mois de septembre 2017. Alors il faut savoir que cette nage a démarré sur le lac de Serponçon et s'est terminée sur le lac de Saint-Cassien dans le Var. Donc la nage de Nelly Kars s'est effectuée du lac de Serponçon au lac de Saint-Cassien dans le Var. C'est une nage de 103 km. Alors le challenge initial c'était d'arriver au chiffre 100, c'est un chiffre symbolique. Le but de cette nage c'était d'attirer l'attention du public sur l'eau et sur ses enjeux. Donc dans le film, ce qu'on a essayé de faire, c'est un petit peu le concept des Marcheurs de la Terre, c'est d'associer une aventure personnelle. Alors cette fois-ci, c'était ici en Provence. Ces dernières années, ça s'est fait au pôle, en Amazonie, dans le désert, un petit peu partout sur la planète, à une cause environnementale forte et actuelle. Donc on s'est dit, on a de l'eau, on a Nelly, qui avait effectivement ce désir qu'on avait encore plus gros, parce qu'initialement, son désir, c'était quand même de traverser la Méditerranée à la nage. Voilà. Donc on s'est dit, on va y aller mollo, pourquoi pas dans le futur, mais pour le moment, on va essayer de faire cette nage-là. Alors la nage en autonomie, il faut savoir que Nelly tirait, elle vous en dira un peu plus tout à l'heure, une bouée de 15 kg sur laquelle elle avait son équipement de sécurité, des outils pour être localisée, parce que moi il fallait que je la localise aussi à terre et sur carte, son autonomie alimentaire. Et l'objectif étant effectivement de réaliser cette prouesse en complète autonomie. Alors cette nage-là n'a absolument rien à voir avec la nage en piscine. La nage au long cours, c'est une longue distance. C'est donc un effort d'endurance, c'est-à-dire que c'est un effort de moyenne intensité sur une très longue période. Ce n'est pas du tout du sprint. Il faut vraiment que les gens comprennent ça. Ensuite, c'est une nage habillée avec palme, masque et tuba. Voilà. Alors, je le répète, la Dame des Lacs, c'était le surnom qui lui avait été donné par les médias et son entourage, en fait, parce qu'elle avait un petit peu son équipe de fans à chaque fois qu'on allait s'entraîner au lac de Sainte-Croix. Et on s'est dit, on va garder le titre la Dame des Lacs, tout simplement parce que voilà, ça fait un petit peu référence à la légende arthurienne. Et puis bon, ça sonne assez bien, quoi, voilà.
Nelly n'est pas Viviane,
voilà. Et je crois que l'un de ses fans l'avait appelée Mélusine à un moment donné, quoi. Donc c'était assez sympa, voilà. Alors, ce challenge a été réalisé sous la tutelle des Marcheurs de la Terre. Alors, je vais peut-être refaire un petit rappel sur les Marcheurs de la Terre. Donc, les Marcheurs de la Terre, c'est une marque, assimilée à une association, mais qui est en fait portée par des associations, une société de production. Alors, c'est une marque de découverte, d'exploration et de sensibilisation à l'environnement. Le concept étant, comme je le disais il y a deux minutes, d'associer une aventure sportive, une exploration très, très engagée. Je le rappelle, des explorations qui ont duré dans le passé plusieurs mois en autonomie complète en jungle ou sur la banquise, à des causes environnementales fortes.
Et vous, par rapport à ça, vous êtes allé où ?
Alors, moi, j'ai développé les Marcheurs de la Terre au retour du pôle Nord magnétique en 1995. Voilà, donc il s'avère qu'on a battu un record de vitesse. C'était le 19 avril 1995. Et puis, à partir de là, les expéditions se sont enchaînées au pôle. On a continué quand même sur pas mal d'expéditions en Amazonie, dans le désert, en haute montagne et sur les endroits les plus extrêmes comme la Terre de Feu, la région du Cap Horn. Toutes ces expéditions, dans le passé, alors c'est bien de se resituer un petit peu dans le contexte, étaient suivies en temps réel par les établissements scolaires français. Et ça a commencé ici à Digne, c'est-à-dire que la toute première expédition, c'était une classe de Digne. Voilà. Au final, quand on a comptabilisé le nombre d'élèves, rencontrés 20 ans après la marque, la marque a 21 ans maintenant, parce que, ouais, c'est ça, on avait visité plus de 100 000 personnes sur tout le territoire français. Et pendant 10 ans d'affilée, on avait systématiquement toutes les écoles du département et une grande partie des écoles de PACA. Donc les gamins recevaient à l'époque, au tout début, des fax. Donc c'était écrit à la main, traduit ensuite avec une machine à écrire, envoyé du camp de base par fax, reçu en France, photocopié par un bureau et redispatché. Bon, aujourd'hui, effectivement, avec le téléphone satellite, on peut tout envoyer directement via l'Internet. Le concept existe encore.
Vous parliez de pôle magnétique et la différence avec le pôle que tout le monde connaît, il est où ?
Bonne question, parce que peu de gens font la différence. Voilà. Alors, pour faire simple, le nord de la planète, le point de convergence de tous les méridiens, c'est-à-dire le sommet du globe, c'est ce qu'on va appeler le pôle géographique. Et toujours pour faire simple, le pôle magnétique, c'est celui qui va attirer l'aiguille de la boussole. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que la planète est traversée par un gros aimant bipolaire. Donc cette énergie magnétique qui est fabriquée par la rotation de la planète et son cœur en fusion va donc créer donc, une énergie quoi, qui va attirer l'aimant de la planète. Sauf que la Terre, étant en mouvement perpétuel et son noyau également, ce pôle va se déplacer systématiquement. Donc le pôle magnétique, lui, se déplace. À l'époque où on l'a atteint, en 1995, il était encore dans les eaux territoriales canadiennes. Aujourd'hui, il se rapproche de la Russie. Et il continue à tourner. Petite parenthèse, il s'en va un peu où il veut et ça, parfois ça inquiète les scientifiques aussi.
On ne peut pas mesurer en degrés la différence ?
Si, on peut mesurer en degrés la différence, mais aujourd'hui je ne pourrais pas vous le dire. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'époque, on avait choisi le pôle magnétique. En fait, on s'était rabattu sur le pôle magnétique parce qu'on n'avait pas touché assez de sponsors pour aller au pôle géographique. Le pôle géographique était nettement plus loin. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est-à-dire que si on part de la dernière Terre pour atteindre le pôle géographique, on aura moins de distance à parcourir que si on devait aller au pôle magnétique qui, lui, est parti dans l'océan glacial. Quoi.
Et entre les deux pôles, lequel est plus publicité ?
On va dire que ça dépend de son éloignement, parce que c'est vrai qu'à l'époque, le géographique, c'était l'Everest, on va dire. Bon, et le magnétique, c'était le sommet qui était en dessous de l'Everest, pour faire une comparaison un peu facile. Aujourd'hui, on va dire que c'est l'inverse. Maintenant, le problème, on va dire, c'est plus tout à fait la même chose dans la mesure où, à l'époque, le magnétique, lui, avait quand même deux problématiques qu'avait pas le géographique. C'est celle des ours, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup plus d'ours sur la région du magnétique, qui est moins éloignée des terres que la région du géographique. La deuxième, effectivement, c'était aussi... on va dire que c'était essentiellement les ours. Et la deuxième, c'était la navigation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser de boussole quand on marche vers le pôle magnétique. Il est évident que la petite déclinaison d'un ou deux degrés qu'on peut avoir actuellement chez nous en Europe, elle est de 180 degrés là-bas. Voilà. Et en plus, il y a une inclinaison, c'est-à-dire que l'aiguille, non seulement elle va naviguer de droite à gauche, mais elle va monter et descendre. Donc elle va complètement bloquer la boussole. Alors au jour d'aujourd'hui, on peut dire que ce problème est compensé par le GPS. Si on se reprojette dans le contexte des années 90, le GPS portable venait à peine de sortir. Donc nous, on a été conseillers techniques sur plusieurs marques de GPS qui nous donnaient des coordonnées équatoriales. Donc en fait, on ne pouvait pas vraiment s'y fier. Donc ce qui fait que c'était une navigation astronomique et solaire qui se rapproche de celle du sextant, quoi. Et c'était vraiment très, très complexe.
Est-ce que vous disiez pour les téléphones satellites, quand vous êtes au pôle Nord, vu que les satellites sont au-dessus de l'équateur, et c'est de plus en plus éloigné, comme la Terre est ronde, le satellite, il s'en fiche, quoi. Hein, mais plus vous êtes éloigné, plus il faut de puissance. Comment ça marche ? Vous n'avez pas de contraintes ?
Alors, à l'époque, il y en avait beaucoup, parce qu'il y avait très peu de satellites, que ce soit pour le GPS ou pour les téléphones satellitaires, qui sont apparus beaucoup plus tard. Donc, avec un module qui était relativement lourd, c'était le modèle Inmarsat, donc c'était une grosse mallette avec une antenne dépliable, etc. C'était lourd. Bon, maintenant, on a le petit téléphone satellite qui passe partout. Celui-là a l'avantage, effectivement, d'être connecté à un réseau de satellites beaucoup plus important. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on peut avoir des coordonnées et une téléphonie correcte avec les satellites actuels, quoi. Voilà. Ceci dit, il y a quand même un paramètre qui intervient aussi dans cette région, ce sont les aurores boréales. Les aurores boréales, ce sont des orages magnétiques. Alors, on a l'habitude de les voir, de les visualiser l'hiver, parce qu'effectivement, ça fait des auréoles de couleurs magnifiques. Mais il faut quand même comprendre que l'extrême nord de l'Arctique a entre 5 et 6 mois d'été par an, c'est-à-dire de lumière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nuit, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'aurore. Donc, il y a quand même des orages magnétiques, ils ne sont pas visibles, et eux perturbent systématiquement les ondes hertziennes. Donc, il faut toujours avoir en plus du téléphone une radio, quand même, une radio traditionnelle. De même qu'il faut toujours avoir en plus GPS la connaissance et la maîtrise de la navigation traditionnelle au sextant et au compas. Ça, c'est clair, sinon on se plante.
Et pour les secours, vous étiez équipé également ?
Pour les secours, on était complètement autonome, c'est-à-dire que... Alors, je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui, hein, mais je peux vous dire que dans les années 90... on signait une décharge auprès de la police montée, comme quoi personne ne venait nous chercher en cas de pépin. Point à la ligne, c'est-à-dire qu'on était bon pour rester sur place. Soit on rentrait par nos propres moyens, c'est-à-dire qu'on faisait le demi-tour, soit on avait un très gros sponsor qui prenait en charge le retour et les recherches, sachant qu'aucune assurance ne pouvait recouvrir ce type d'événement, quoi. Voilà, donc c'était vraiment très très difficile. Alors aujourd'hui, il ne faut pas croire que ça s'est allégé, quoi. C'est-à-dire que d'un côté, la technologie s'est développée, ça c'est clair, mais qu'est-ce qui se passe actuellement? La planète est en train de fondre de tous les côtés. Donc la banquise qui était encore relativement fermée, je dirais jusqu'au mois de mars, avril, mai, début juin dans les années 90, aujourd'hui, début mai, fin avril, elle se disloque. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez aujourd'hui atteindre le pôle à pied sec, c'est une image, il faut y aller la nuit. Sinon, comme on fait certaines expéditions, eh ben on y va le jour, mais de glaçon en glaçon avec de la plongée sous glace. Donc en fait, la technologie a avancé, mais la banquise a fondu. Donc l'expédition polaire reste un gros, gros challenge aujourd'hui quand on veut y aller à pied. Bon, maintenant, l'ouverture de la glace ouvre également les passages et les bateaux peuvent arriver quasiment jusqu'au pôle aujourd'hui, au cœur de l'été, quoi.
Vous avez une âme verte, mais vous voyez que la faune également disparaît petit à petit.
Tout disparaît. Le problème écologique est global. Et c'est ce qu'on a aussi voulu relater dans le film « La Dame des Lacs » sur lequel on reviendra. Mais on ne peut plus aujourd'hui regarder les problèmes mathématiques sur un angle local. C'est plus possible. Il faut arriver à comprendre que toute pollution émise là, maintenant, en état digne aujourd'hui, donc que ce soit par la voie aérienne, dans l'eau ou ailleurs, un jour intégrera le cycle de la circulation atmosphérique ou maritime. C'est très facile à comprendre. Un produit chimique, un polluant qui est balancé aujourd'hui dans la Bléone intégrera la Durance rapidement, le Rhône, la Méditerranée, va se délayer à des doses infinitésimales, c'est évident, mais va se rassembler avec les autres pollutions existantes, passera Gibraltar, ira de l'autre côté sur le Bosphore, intégrera le circuit atmosphérique et un jour se retrouvera au pôle ou ailleurs. Donc tout ce que l'on produit aujourd'hui, hein, on est bien d'accord, passera par le pôle et inversement. Il faut savoir que dans les années 90, on commençait déjà à tirer des sonnettes d'alarme. On a retrouvé des polluants chimiques originaires de nos latitudes à nous dans le lait de l'ours blanc. Et on a retrouvé également des polluants qui étaient interdits depuis 20 ans dans les années 90. Donc ça nous ramène aux années 70 quasiment, dans la graisse de manchot. La dernière expédition de reconnaissance que j'ai faite dans la région du Cap Horn, on s'est aperçu que certains manchots naissaient aveugles à cause du trou de la couche d'ozone. Que certains alevins, les alevins ce sont les petits poissons, naissaient aveugles et grandissaient aveugles. Donc le poisson grandit sans savoir si c'est une proie ou un prédateur. Pas besoin de faire un dessin, quoi.
Puis pour se nourrir aussi.
Pour se nourrir, c'est pareil. Donc, c'est un gros, gros problème. Alors là, on parle des animaux. C'est exactement pareil pour le péril vert, hein, sur la forêt amazonienne que moi, j'ai prospecté pendant près d'une trentaine d'expéditions. C'est également valable dans le désert. Le désert avance ou recule. Ça a toujours été, mais sauf que maintenant, il y a des humains qui vivent dans le désert. S'ajoute à ça la problématique, alors certains vont pouvoir me taper sur les doigts, mais de désenclavement lié à l'Internet. Alors je m'explique, hein, et j'en ai souvent parlé de ça. Les populations pauvres qui vivent dans le désert et qui ont aussi leur bonheur à eux, parce que ce sont des gens qui vivent en équilibre avec des conditions de vie extrêmement difficiles, depuis un bon bout de temps sont complètement désenclavés avec des grosses paraboles Internet sur lesquelles on leur envoie de l'information à coup de clic sur ce qui se passe ailleurs dans la planète. Bon. Eh ben, on comprend bien qu'une personne du Sahel qui va consommer entre 12 et 15 litres d'eau par jour sur un espèce de cybercafé sahélien va faire un clic et va voir qu'à Las Vegas, un Pékin moyen va consommer 2000 litres d'eau. Ben, y a de quoi pas être content, quoi. Et après, ben, y a des gens qui passent derrière et qui leur montent un petit peu la tête contre les autres. Donc là aussi, on ne va pas rentrer plus loin, mais c'est facile à comprendre.
Ah, ça, c'est plus politique.
C'est plus politique, mais justement, cette petite passerelle, sans la développer, nous rappelle qu'on ne peut pas dissocier l'écologie de l'humanité. C'est clair. Aujourd'hui, tous les écocides qui sont propagés contre la planète, écocide est un terme récent hein, qu'on commence à utiliser, sont indirectement donc propagés envers l'homme. Tout simplement, l'homme se massacre. Alors le problème, bah, c'est toujours pareil. Ce qui surprend toujours, c'est que on a de l'information, on a de la bonne information, on a des vecteurs d'information qui sont très très efficaces. Tout le monde, d'un coup de clic, peut accéder à cette connaissance hein, à son niveau, la développer s'il le souhaite, et on continue. Alors moi, c'est quelque chose qui m'épate. Il y a quelque chose, je sais pas, c'est peut-être dans ma tête que ça bloque, mais je pense que il y a quand même quelque chose à faire. Alors c'est vrai que le coup de la Dame des Lacs, bon, ben, c'est un petit peu le résultat de ces 25 ans d'exploration, parce que même avant, même 30 ans, parce que moi, avant d'avoir monté les Marcheurs de la Terre, j'étais déjà guide d'expédition, guide de trek professionnel, et après je suis devenu explorateur. Ben, la Dame des Lacs, c'est un petit peu la suite logique de tout ça. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas l'exotisme, je dirais, des tropiques, mais à la limite, ça, on s'en moque complètement. Mais le challenge et la thématique, c'est-à-dire les messages qui sont véhiculés par le challenge, les messages de bon sens, de droit au rêve. Alors cette fois-ci, on n'est plus dans l'écologie véhiculée par Nelly dans ce film, dans son challenge, et les messages sur la protection de l'eau sont tous, comment dirais-je, en phase avec le concept initial des Marcheurs de la Terre, c'est-à-dire faire rêver pour éduquer.
Et ce concept, avant de retrouver Nelly, vous êtes allé en Corse, ce projet en Corse, c'était plus compliqué à faire?
Alors la Corse, quand j'ai rencontré Nelly, elle avait un projet, c'était faire le tour de la Nouvelle-Calédonie à la nage. Elle a vécu, elle vous le dira, plus de 10 ans dans une tribu, dans plusieurs tribus. Elle a été professionnelle de la chasse aux langoustes, c'est-à-dire que l'eau, elle connaît. Les squales, les requins, les ressacs, les lagons, etc., etc. C'était son univers et son but au départ, c'était d'arriver à faire le tour de l'île. Bon, moi, je ne connais pas ce secteur-là. J'ai commencé à étudier la logistique. Tout est possible, mais ça aurait été extrêmement difficile. Mais il y a des paramètres qui sont très, très difficiles à intégrer là-dedans. Des paramètres culturels, parce qu'il faut des autorisations des différentes tribus, des paramètres environnementaux, parce qu'effectivement, il y a un changement de comportement chez les requins. Donc, je me suis dit, c'est peut-être un petit peu trop précoce. Alors, Nelly s'est dit, je vais faire la traversée sur la Corse. Alors, la Corse, moi, ça m'a séduit, parce que, bon, d'abord, j'aime la Corse. J'y ai travaillé en tant que guide. J'aime la traversée, etc., etc. Mais je trouvais que c'était quand même un petit peu fort. On s'est dit, on va quand même faire du local, quoi. Et puis après, il y a le problème du budget, c'est-à-dire que bon, l'expédition, enfin le challenge en lui-même a un coût. Par contre, il y a aussi celui du film et toute la logistique, quoi. C'est-à-dire que le challenge, il est aussi de ce côté-là, quoi. La gestion du tournage, le montage, la diffusion, etc., etc. Donc on s'est dit, on va d'abord faire les lacs en autonomie, ce qui donne une dimension très, très aventure, quoi. Et puis après, on verra pour la suite, quoi. Mais c'est vrai que le projet de Corse, pourrait se développer en parallèle d'un autre projet qu'on appellerait Posidonia. Hein, la Posidonia, c'est une plante emblématique de la Méditerranée. Comme me disait un botaniste il n'y a pas très longtemps, elle n'est pas très sexy, donc les gens s'en moquent un peu. Le problème, même si elle n'est pas sexy, elle est indispensable. Voilà. Et la Posidonie, c'est le corail de la Méditerranée. Et cette plante-là est en train de décliner, et décline avec elle tout l'ensemble des écosystèmes méditerranéens. Donc la Corse, on risque de la retrouver intégrée à ce projet-là dans le futur.
Vous auriez pu prendre l'immortel.
L'immortel, mais elle est à terre.
Oui, voilà. Quelque part.
Ouais, ouais.
Et de la traversée, tout à l'heure, vous parliez de la traversée de la Méditerranée. Votre point de départ était où? Plus au sud de la France continentale, entre guillemets, c'est Bonifacio, c'est...
Non, au départ, on avait prévu le plus court. Le plus court étant Antibes-Cap-Corse. Voilà. Mais le plus court n'est pas non plus le plus simple, parce qu'il y a quand même un courant au milieu. Hein, il y a un courant de deux nœuds qui déporte bien, la traversée est quand même assez longue. Le plus court, c'était pas tant par rapport au danger lié au milieu, c'était aussi par rapport au danger lié au passage des bateaux et à la fréquentation des bateaux. En fait, il faut arriver à trouver un point d'équilibre entre une période peu fréquentée,
en hiver,
et justement une eau suffisamment bonne et avec peu de courant. Et là, ça devient un petit peu délicat. Voilà, donc parce que c'est vrai que ces efforts-là sont très sollicitants pour l'organisme. Hein. Il faut savoir que c'est des 8 à 10 000 calories par jour. Sinon, c'est une fonte de muscles en l'espace de deux jours, quoi. Et à ce moment-là, il n'y a plus de moteur.
Et vous, Nelly, pour les températures, le minimum dans lequel vous pouvez nager, quelles sont-elles?
Ah, c'est une bonne question. Je dirais que ça dépend surtout de la combinaison. Donc, c'est pas vraiment possible d'envisager de nager vraiment aussi longtemps si on n'est pas bien équipé. Donc là, par exemple, sur la nage de la Dame des Lacs, j'ai eu des températures exceptionnelles, par exemple du 23 à 24 degrés, c'était même très chaud. Au bout de 6 heures, dans 23 ou 24 degrés, à nager de manière quand même assez franche, on se refroidit. Et les plus basses, j'étais sur du 7-10 degrés. Bien équipé, c'est pas le problème, en fait, la température. Ça va être beaucoup plus sollicitant, mais si je bois du thé chaud bien sucré, c'est pas vraiment un gros souci. Si, par exemple, on était resté sur la Méditerranée, qui se fera peut-être... Le problème, ce serait plutôt d'avoir un créneau météo suffisant pour pouvoir faire la traversée. Parce qu'elle ne se fait pas en un jour. Il vaut mieux que je reste sur du 10 à 15 km jour de nage, ce qui est déjà suffisant. Donc il faut compter quelques jours de bons créneaux météo pour pouvoir le faire. Et ça, c'est une autre histoire.
Et combinaison que vous utilisez, enfin, la combinaison que vous utilisez, vous avez un circuit d'eau qui circule entre vous et entre votre peau et la combinaison?
Non. Alors la combinaison que j'ai utilisée, par exemple, pour la nage de la Dame des Lacs, elle a été choisie en fait pour son élasticité. Parce que je dois nager non seulement avec les jambes, mais également avec les bras, sur un rythme qui peut s'apparenter à du crawl, même si j'ai des plaquettes aux mains, donc c'est des palmes de main, et des palmes sur les pieds, donc qui sont très très grandes palmes. Non, dans ces combinaisons-là, là, j'ai choisi une combinaison de surf, tout simplement parce que ça n'existe pas, des combinaisons de nage pour nager aussi longtemps dans ces conditions-là. Ça ne se fait pas. Donc j'ai choisi une combinaison de surf qui est très très élastique. Dans la combinaison, en fait, il y a une petite couche d'eau très fine qui se glisse en fait entre la peau et la combi et qui maintient une certaine température qui peut être très très confortable.
Et il y a une grosse différence entre l'élasticité d'une combinaison de surf et la combinaison que les plongeurs en eau profonde peuvent utiliser?
C'est complètement différent. Une combinaison de plongée n'est pas une combinaison de natation. La combinaison de plongée, elle est censée vraiment nous protéger. Quand on plonge en bouteille, donc en eau profonde, on n'utilise quasiment que les jambes. La combinaison de natation, ça peut se rapprocher d'une combinaison de triathlon. Là, on se retrouve en fait avec une combi qui nous permet d'avoir des mouvements très très amples en fait. Il faut pouvoir avoir une grande allonge, être très très à l'aise. Je ne pouvais pas utiliser une combinaison de triathlon, c'était une grande logique parce que je n'étais pas en train de faire la course. Le but, c'était en fait de tenir 11 jours consécutifs à moitié de mes capacités à peu près tout le long. Ça n'a pas toujours été le cas. Il y a eu une journée où je me suis mise minable. Mais normalement, il fallait quand même que je tienne à ce rythme-là. Donc, il ne fallait pas que j'ai une combinaison trop fine. Il fallait au contraire que ça me tienne chaud pour que ce soit confortable pour durer longtemps. Il y a un autre avantage, en fait, à une combinaison de surf, c'est que ça a une excellente flottabilité. Et ça permet, en fait, parce que j'ai eu droit à un lâcher d'eau d'un barrage en l'aval du lac de Sainte-Croix. C'est très, très, très impressionnant. Et ça me permet, en fait, d'avoir une bonne flottabilité, de pouvoir résister mieux aux tourbillons et aux courants.
Et la combinaison que vous utilisez, c'est bras et jambes compris ou ça s'arrête au mi-cuisse et au niveau des épaules, enfin en dessous des épaules?
Alors c'est bras, jambes, mais également la tête qui est comprise. C'est une combinaison en plus qui s'enfile par la tête, qu'il n'y a pas de fermeture éclair. Ça fait un drôle d'effet, il ne faut pas être claustrophobe. Après, il faut avoir des bons gants. Moi, j'ai un acro-syndrome, c'est-à-dire un problème circulatoire qui fait que je me refroidis plus vite que les gens normaux, pour faire simple. Je peux perdre même les extrémités si jamais je vais dans des conditions trop froides. Donc c'est un handicap dès le départ. Donc j'ai choisi des chaussons et des gants très souples. Et les chaussons, c'est un autre avantage, c'est que si on choisit bien ses chaussons, je peux donner un petit tuyau, il faut prendre des chaussons avec des coutures thermosoudées. Ça permet en fait de ne pas avoir d'ampoule. Ça, c'est formidable. Parce que quand on nage longtemps, au bout d'un moment, les ampoules, on se met de l'élastoplast, on se met quelque chose pour régler le problème, et ça s'incruste dans la peau, et on vit avec une douleur perpétuelle qui s'ajoute aux autres. Parce que sur un nage comme ça, y a beaucoup de douleurs qui se développent. Donc si on peut éviter les ampoules, c'est pas plus mal.
Et le handicap par rapport à la circulation que vous mentionnez, vous l'avez découvert là? Quand vous avez commencé, c'est plus antérieur?
Non, ça fait des années. Après, pour être sincère, sur la nage au long cours, l'effort qui est régulier en fait permet une circulation du sang qui est quand même franchement intéressante, parce qu'au contraire on n'est pas à l'arrêt, on n'est pas au repos, donc on ne se refroidit pas tant que ça. Donc c'était surtout un problème si jamais je devais m'arrêter et souffler dans l'eau froide, là ça aurait été un souci. Mais bon, c'était vraiment, tout était millimétré, tout était calculé. Sur la préparation, on a calculé, il y a eu quasiment 1000 km de nage en amont, et uniquement en milieu naturel, jamais en piscine. Moi, j'aime pas la piscine. On va dire que c'est mon choix. Je suis pas du tout une nageuse en piscine. Si vous me mettez dans une piscine, je serais très très mal à l'aise d'ailleurs. La natation s'est faite uniquement en milieu naturel. Principalement sur le lac de Sainte-Croix, parce que c'est un bon terrain d'entraînement où il n'y a pas de moteur thermique. Donc, c'est très 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 pratique. Et quand on est en milieu naturel en permanence pour s'entraîner dans des conditions toute l'année, c'est-à-dire également en hiver, également par mauvais temps volontairement. Le jour du challenge, c'est vrai qu'on est quand même bien préparé et il y a peu de mauvaises surprises.
Le fait que l'eau soit conducteur pour les bruits, c'est vraiment ça vous gêne beaucoup?
Alors ça, c'est une super question, c'est très très intéressant. Moi, quand je nage, en fait, on a du mal à s'imaginer en fait l'état d'esprit dans lequel je suis, parce qu'il y a un côté répétitif très très monotone. C'est un peu comme quelqu'un pour les cyclistes ou les gens qui ont l'habitude de faire de la randonnée. Ça peut être très monotone, on a l'esprit qui s'évade un petit peu et on a toujours quelques petites veilleuses qui sont là pour la sécurité. C'est très très important de les avoir, qu'elles soient bien allumées. Après, côté visuel, Après, je reviendrai sur le son. Le côté visuel, en fait, ben, on a quand même une vision limitée parce qu'on a un masque. Un masque, c'est formidable, mais ça a quand même ses limites. Moi, j'ai fait le choix de ne pas prendre de tuba frontal, de manière à avoir encore une meilleure visibilité. Donc, un tuba sur le côté, c'est une prise à l'eau qui est quand même importante. Par contre, côté son, quand on a sur la tête une cagoule et qu'on est en train de nager avec les bras, on génère un bruit qui est monumental. Donc, je suis sourde au bruit extérieur. Ça veut dire que si un bateau avec un moteur thermique arrive sur moi, je vais l'entendre au dernier moment tellement en fait je suis dans mon propre son, mon son de nage. C'est très très impressionnant. Donc je ne peux pas me tenir compte de l'ouïe et je ne peux pas trop tenir compte de la vue, d'autant plus que bon, on a des lacs où l'eau est claire, mais il y a des lacs où on n'y voit quasiment rien. Sur le lac de Serponçon, quand il baisse et que la visibilité est mauvaise, il y a des moments où moi, je ne voyais plus le bout de mes mains. J'ai dû sortir de l'eau plus tôt parce que je me suis prise un mur, un vestige. Des villages en noyer avant le lac. Une visibilité pareille, ben ça réduit vraiment les possibilités. Donc dans ces cas-là, il faut sortir souvent la tête. Alors, je peux en profiter aussi pour faire un peu de sensibilisation par rapport à ça. Les lacs, c'est vrai que c'est absolument pas anodin. Ce sont des milieux qui sont fantastiques, qui sont très très fréquentés pendant l'été ou pas. Et il y a beaucoup de comportements qui sont plus que dangereux. On parle beaucoup de l'hydrocution, on en parle beaucoup, c'est une réalité. Donc l'hydrocution, c'est une grosse contraction en fait, des artères et du cœur, c'est une genre de grosse crampe en fait, qui est due en fait au choc thermique entre la température extérieure et la température extérieure étant celle du lac, et la température de notre corps qui a bien chauffé. Mais il n'y a pas que ça. Chaque année, en fait, il y a des gens qui se blessent parce qu'ils vont plonger et se blesser sur des objets qu'ils ne voient pas. En fait, quand on saute à l'eau, c'est d'une simplicité extraordinaire, mais il faut faire attention à ce qu'il y a dessous. On ne le voit pas toujours. Et par exemple, il y a eu un accident l'année dernière, donc, que j'ai appris plus tard, depuis le pont de Saint-Cassien, donc Saint-Cassien dans le Var. Donc une personne est restée coincée dans la vase, donc elle a sauté du pont, elle n'est pas remontée. Et c'est vrai que bon, il y a beaucoup de jeunes, peut-être qui nous entendent de là, qui pensent à aller plonger d'un pont cet été, bah, qui prennent les choses avec un petit peu de recul.
Déjà, il ne faut pas plonger seul. Ça, c'est comme pour ceux qui plongent en Méditerranée, quoi. Mais il faut que quelqu'un soit en bas pour dire, là, tu peux aller ou pas aller. C'est précautionneux.
Les règles de sécurité sont vraiment importantes. En fait, il faut vraiment penser en amont à ce qu'on va faire et éviter d'aller plonger bourré, par exemple. Mais sinon, après, il y a beaucoup de panneaux en fait, d'informations qui sont là au bord des lacs, notamment aux abords des barrages, sur les retenues. En fait, on ne se rend pas vraiment compte de l'importance que peut avoir un lâcher. Nous, sur le tournage, donc pendant la nage de septembre dernier, on a eu droit à un lâcher à l'aval du lac de Sainte-Croix. On était donc sur la plage, en train d'installer le matériel. On a dû reculer à toute vitesse. Et d'ailleurs, la séquence est dans le film, c'est visible. On voit la montée de l'eau. On est obligé de reculer très vite, de déplacer le véhicule. Et quand on est pris dans un lâcher pareil, ça va très très vite en fait. L'eau, elle perd 10 degrés en 5 secondes. Il y a des tourbillons de partout, il y a des bois flottants. C'est vraiment très 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 impressionnant. Et une personne qui n'a pas fait attention au panneau ou qui n'est pas avertie, ben ça peut être dangereux.
On reprend la conversation juste après le journal de RFI à partir de 9h15. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Retour avec Nelly Cars et Bruno Lambert pour ce fabuleux événement qui va avoir lieu prochainement, film que vous avez fait, Bruno, vous, avec Nelly qui était dans l'eau. Tout à l'heure, juste avant les infos, nous parlions des dangers de l'eau et du fait que vous nagez, que vous êtes absorbé par tous les bruits que vous faites, vous, par rapport aux bruits extérieurs tels que les bateaux. On parlait des bateaux thermiques. Ou bateaux électriques. Bateaux électriques qui sont permis sur le lac de Sainte-Croix et dans beaucoup de lacs du département, hors les bateaux thermiques, donc à moteur, qui sont dangereux. Les bateaux thermiques, les bateaux électriques, c'est encore plus dangereux. Et vous parliez hors micro par rapport aux planches à voile. Quand il y a une planche à voile qui s'approchait de vous en été, notamment, c'était encore plus dangereux parce que la personne ne fait pas attention de ce qu'il y a en dessous.
Alors, ça concerne tout le monde en fait. Ça concerne tous les nageurs, c'est-à-dire qu'un véliplanchiste, s'il est suffisamment attentif, c'est super, mais il ne pourra pas tout voir. C'est-à-dire que quand il y a de la vague, il ne verra pas forcément ce qu'il y a dans le creux de la vague. Et sur nos lacs, des fois, on a des creux qui sont quand même pas mal, avec des vagues très, très cassantes. Donc n'importe quel nageur, en fait, qui a envie de faire une petite traversée un petit peu sympathique, peut se retrouver dans une condition dangereuse parce qu'il n'entendra pas la planche à voile. Une planche à voile, ça ne fait pas de bruit quand elle s'approche. Donc je pense que dans ces cas-là, il faut toujours avoir quelqu'un qui surveille également. C'est un procédé tout simple.
Et les conditions, quand vous nagez, vous voyez une différence hors période estivale et période estivale où tout le monde fait un petit peu n'importe quoi?
Alors, c'est incomparable, en fait. Sur la période 15 juillet, 15 août, en fait, il y a un énorme relâchement général. Et donc, ce relâchement général, alors, je généralise, il y a plein de gens qui ne rentrent pas là-dedans, mais ce relâchement général, ça induit quoi? Des comportements relâchés, donc de moins en moins attentifs, et il y a beaucoup de problèmes. Donc, de toute façon, quand on nage sur nos lacs, sur nos plans d'eau, de manière générale, il y a très peu de monde avant cette période-là. Même au tout début du mois de juillet, les lacs sont encore assez tranquilles. 15 juillet, 15 août, il y a une espèce de rush où il y a un peu de tout comme comportement. Des gens très responsables, des gens qui sont là et qui relâchent tout, c'est-à-dire également leur conscience vis-à-vis des dangers autour d'eux, des dangers qu'ils peuvent générer. Et les vacances peuvent se transformer en enfer. Oui, tout à fait.
Et pour aller nager, donc vous utilisez souvent des sentiers. Vous croisez souvent des gens qui sont aussi irresponsables quand vous les croisez?
Pas nécessairement, en fait. Ça dépend des endroits, ça dépend des périodes. Je fais juste un petit aparté sur la nage que j'ai pratiquée. J'avais quand même un moyen d'être repérable. Et ça existe pour tout le monde. On peut prendre des bouées qui nous permettent de nous signaler. On peut tracter une bouée. C'est pas idéal, parce que la bouée va quand même se retrouver dans le creux de la vague, s'il y a de la vague. Quand elle est dans le creux, on la voit pas. Mais c'est déjà un bon outil, en fait, qui est extrêmement simple, qu'on peut trouver à 15€ très facilement, et qui permet, en fait, d'aller nager sans prendre trop de risques non plus. Moi, je tractais une bouée qui n'avait rien à voir avec la bouée de signalement. Je tractais ce qu'on appelle une planche de chasse, c'est-à-dire de chasseur sous-marin, sur laquelle je mettais mon matériel, mon autonomie pour la journée. L'autonomie, c'est à peu près 15 kg de matos, hein, en comptant à peu près 7 litres d'eau, parce que je buvais énormément. Parce que pour éliminer mes 8 à 10 000 calories, pour pouvoir les digérer, pour pouvoir qu'elles travaillent, il fallait boire énormément. Donc j'étais toute la journée dans l'eau, mais je transportais mon eau potable.
Et vous tractiez 15 kg en nageant?
Oui, mais ça ne se sent pas tellement, en fait, quand on tracte 15 kg en nageant. On va dire que tant que les conditions sont bonnes, c'est pas vraiment un problème. C'est pas comme si on tire 15 kg au sol sans système. Là, ça glisse sur l'eau. Une bouée, c'est fait pour glisser. Une planche de chasse, c'est très très bien fait. En plus, Bruno a bricolé un super système d'amortisseur, en fait, qui permet, en fait, d'atténuer les coups à la ceinture, parce que pour la tracter, la bouée était autour de ma ceinture. Donc, ce système d'amortisseur permettait d'éviter les à-coups, en fait. Quand il y a des vagues qui sont très très cassantes, ça me permettait d'éviter tout ça.
Et hormis les lâchers d'eau par rapport au barrage, est-ce que les conditions météo sur un lac peuvent changer radicalement en très peu de temps?
Oh oui. Alors, les conditions météo, notamment sur les grands lacs, il y a quelques points sur lesquels c'est vraiment nécessaire de faire le point. C'est que quand on prend les prévisions météo, elles tiennent rarement compte du thermique. Le thermique, c'est un vent qui est généré par un appel d'air qui vient des sommets. C'est-à-dire que les sommets des reliefs environnants vont se mettre à chauffer. La différence de température entre le sommet et le lac, ça va créer ce qu'on appelle le vent. Et le vent, donc, c'est un appel d'air vers ces sommets. C'est tout simple. On peut s'imaginer facilement que dans l'après-midi, il fait très chaud. Il y a une grosse différence de température et donc il y a un vent régulier qui va se lever, qui n'est pas annoncé ça, sur les bulletins. On le voit très rarement. Et ça peut générer des jolis creux. Et pour celui qui peut partir à la nage sur son radeau, sur sa planche, sur son bout de bois, sur son jouet, pour revenir même sur son pédalo, d'ailleurs, ça peut être un gros, gros souci. Ensuite, dans les conditions qui changent radicalement, c'est l'orage. L'orage, quand on va arriver sur le mois d'août, en théorie, on en a un petit peu moins, mais c'est le reste de la théorie. Les orages, ça bouge. Un orage, c'est vivant, c'est fantastique, c'est une énergie énorme. Une personne sur l'eau peut se retrouver foudroyée. On l'oublie souvent, mais c'est complètement possible. Sur l'eau, on fait un mouvement. Ce mouvement peut attirer la foudre. Mais par contre, un orage, c'est quoi? C'est du vent, c'est de la pluie, c'est de la grêle, et c'est aussi de la panique. C'est-à-dire qu'une personne, en fait, qui va se retrouver peu à même d'affronter cet élément, qui est quand même impressionnant, admettons que ce soit son premier orage sur l'eau, elle peut perdre ses moyens. La panique, en fait, ça fait quoi? Ça bouffe des calories, ça fait qu'on va être moins attentif, ça fait qu'on va pouvoir peut-être faire n'importe quoi. Et c'est là, en fait, que les situations dégringolent. Ça fait que si on prend les choses en amont et qu'on est carré dès le départ et qu'on prévoit, qu'on planifie, qu'on voit un gros nuage s'approcher, on se dit on rentre plus tôt. C'est tout simple, ça permet en fait d'apprécier sa journée jusqu'au bout et peut-être d'être en train de siroter une bière ou un sirop pendant l'orage à terre.
Vous bravez jamais la météo?
Ah oui, la météo, c'est très très important. Nous, la météo, on s'en sert énormément. La braver, oui, complètement. Là, il a fallu non seulement le faire, mais le faire dans les conditions les pires, de manière à pouvoir être à même, en fait, de pouvoir gérer la situation. Par contre, on évite l'orage. Aucune envie de me faire foudroyer. Par contre, une mauvaise condition météo, c'est-à-dire beaucoup de vent, oui, c'est nécessaire d'y aller.
Et vous, est-ce que vous repoussez à chaque fois un petit peu plus la cohésion entre vous et la nature par rapport aux conditions météo qui changent. Est-ce que vous repoussez? Je dis, je suis allé jusqu'à tel point, je vais essayer d'aller un petit peu plus la prochaine fois.
C'est un jeu qui est absolument fascinant, ça, parce qu'on peut repousser ses limites. On connaît l'environnement. Si on est souvent dedans, ben on apprend à le connaître encore mieux, de manière encore plus fine. On a cette forme d'intuition en fait qui se mêle à la connaissance réelle. Donc cette forme d'intuition qu'ont les animaux, hein, ça sent l'orage, d'un coup plus personne n'est là, ben on finit par l'acquérir. Hein. Par contre, soi-même, on apprend à se connaître, on va de plus en plus loin, mais on flirte avec ses limites. On apprend aussi où elles sont, des fois à ses dépens, tout simplement, et c'est là où ça peut devenir très très fin. Donc les entraînements ont permis en fait d'aller le plus loin possible par rapport à ces limites-là, de manière à ce que le challenge en lui-même se passe dans des bonnes conditions. Et on a eu une chance formidable, qui est d'ailleurs très ironique, parce que j'étais quand même en train de nager pour l'eau, et on était là à espérer qu'il continue à faire sec. Alors qu'on était dans la plus grosse sécheresse de ces 40 dernières années, on espérait encore que la pluie ne tombe pas tout de suite, parce qu'après, les conditions météo pouvaient changer.
Et les conditions météo, par rapport au remous qu'il peut y avoir dans un lac, là, tout à l'heure, vous parliez de visibilité. Le fait que ça change, vous, quand vous nagez, est-ce que vous avez un repère? Parce que vous disiez que vous sortiez la tête de l'eau, mais bon, quand on est dedans, on n'a pas forcément tous les bons repères. Vous avez une boussole, quelque chose qui vous indique où vous pouvez aller?
Sous l'eau, je ne prends pas de boussole. Le mouvement de nage que je pratique, en fait, donc je répète, hein, ça se fait avec des grandes palmes et des plaquettes aux mains. Je fais à peu près, on va dire à la louche, parce que ça peut vraiment varier quand même en fonction des conditions, on va dire. Je fais 4 battements de jambes pour 2 de bras, et tous les mouvements, 5 mouvements de bras, je peux lever la tête de l'eau. Donc je sors la tête de l'eau, je scanne ma position. Mais avant ça, j'ai pris un point de repère, c'est-à-dire le mouvement d'avant, j'avais déjà un repère, c'est-à-dire ce qu'on appelle un amer, un cap en fait. Donc un repère visuel, c'est quoi? Ça peut être un pont, ça peut être un sommet, ça peut être une maison, un arbre, quelque chose. Et donc au lieu de dire « Ah, je suis là », quand je lève la tête, je dis « Ah, je suis bien dans la direction de l'arbre ». Alors ça, c'est complètement théorique. Parce qu'en réalité, pendant ces 5 mouvements de bras où je ne vais pas lever la tête, des fois, je peux faire des sacrés écarts. Et Bruno avait estimé que je majorais en fait ma distance de nage d'environ 10%. En fait, tout simplement parce que je fais des zigzags. Je nage pas droit.
Vous tirez des bords.
C'est un petit peu le cas. Je tire des bords. Alors, il y a un autre élément qui est intéressant. C'est que quand le vent se lève, là, par contre, c'est vraiment intéressant. Quand le vent se lève, en fait, l'angle des rayons solaires avec celui des vagues qui est régulier permet de garder un cap qui peut être à la fois visuel et ressenti. Mais bon, ça, c'est encore technique, mais c'est très intéressant.
Vous nagez, mais vous faites de la navigation tout le temps quand vous êtes
absolument
dans l'eau.
Absolument.
Et vous, Bruno, puisque vous faites des films, vous, votre matériel, quand les conditions changent, vous avez un matériel qui est trop tropicalisé ou ça marche comment?
Alors déjà, ouais, je veux juste revenir sur un point précis. C'est vrai que bon, moi, j'ai été réalisateur et auteur du projet Water Story et réalisateur du film. En fait, dans la réalité, je suis plutôt co-réalisateur. Parce que c'est vrai que Nelly a beaucoup participé à la réalisation aussi, et également sur le tournage. C'est-à-dire que moi, j'étais à l'extérieur. Parfois, j'étais entouré d'une petite équipe très, très mobile, parce qu'il fallait donc piloter les bateaux, il fallait quelqu'un avec un stabilisateur, etc., etc. Mais toutes les images aquatiques et entre deux eaux, on va dire, parfois nautiques et souvent aquatiques, c'est Nelly qui les a faites. C'est-à-dire que Nelly partait avec des caméras embarquées, avec des systèmes bricolés. Alors, bon, je vous donne une idée. Par exemple, vous avez un boîtier avec une caméra étanche. Bon, en fait, c'était scotché ou vissé sur un disque d'haltère, quoi. Elle allait donc mettre son haltère à 15 mètres parce qu'elle se faisait des apnées de 15 à 17 mètres sous l'eau.
Il faut préciser, c'est interdit de plonger en bouteille dans
voilà
le lac. C'est très important.
Ah oui, il est évident.
Toutes les images sont faites en apnée.
Quoi. Aucune image n'a été faite en tout a été fait en apnée. Hein. Et ça, c'est une sacrée prouesse. Hein. Donc Nelly a fait, en plus de sa nage, donc a fait également des images tout au long de sa nage. Alors, quand on entend ça, bon, on se dit, bon, c'est facile. Non, des images pour faire un film, c'est des images où ça ne doit pas bouger. On doit garder les niveaux. Des images animalières, ce n'est pas évident. On ne met pas la caméra sur le masque. On la tient à la main, bras tendu, entre deux eaux, avec sa respiration. Et on doit arriver à faire 10 secondes sans bouger. Un plan de 10 secondes, c'est une prouesse. Qu'il y ait des brochets, qu'il y ait des ablettes, qu'il y ait des carpes. Donc c'est très très important. Alors il faut savoir que toutes ces images-là ont été faites par Nelly. Alors on a fait des compléments d'images avec des perches, etc., etc. pendant la préparation et après la préparation. Parce qu'en fait, au cours du montage, on s'est rendu compte qu'il nous manquait telle ou telle ou telle bestiole. Il faut bien savoir que ce film est axé sur la nature. Hein. C'est aussi un hymne à la nature. Donc, ce qu'on a montré, ce n'est pas des touristes, ce sont des animaux.
Alors, je vais faire une petite parenthèse sur ce que tu dis, parce que sur les images sous-marines, en fait, sous lacustre, en fait, on s'est aperçu dans notre entourage, on nous a dit, mais en fait, on n'a encore jamais vu nos lacs sous cet angle. On ne sait pas ce qu'il y a dessous. Nos lacs, sur certains, on est sur un véritable aquarium. C'est fantastique. Un lagon tropical le vaut largement. Il y a des endroits où il y a des gorges avec des arbres noyés qui sont accrochés aux falaises. Il y a les rayons solaires qui descendent dans le bleu. C'est absolument fantastique. Et c'est vrai que nos lacs, on ne les connaît pas du tout sous cet angle. On voit la surface. Et là, on a la chance en fait, de pouvoir montrer aux gens ce que je peux voir moi, quand je nage, c'est-à-dire ce qu'il y a dessous. C'est deux mondes complètement différents qui se côtoient et des fois qui font des échanges.
Et entre vous, qui prend la décision de dire ces images sont bonnes, on les garde, on ne les garde pas ?
Initialement, c'est moi, c'est-à-dire qu'en tant que réalisateur, j'écris l'histoire, j'écris la trame du film, c'est-à-dire qu'ensuite j'écris les séquences, j'écris les plans séquences. Ça va jusqu'à la toute petite image, donc il nous faut un cumulonimbus, il nous faut une mouche, il nous faut un son d'abeille, bzzz, etc., etc. Tout ça, c'est écrit, donc ça fait des milliers et des milliers et des milliers d'écritures, ok ? On essaye effectivement de respecter ça dans le cahier des charges. Alors attention, il n'y a pas que les animaux, il y a le patrimoine, il y a différents types de nage. Il y a la nage suggestive, il y a la nage donc plan large, plan éloigné, etc., etc. Et après, arrivé au cours du montage, parce que Nelly travaille essentiellement sur le montage, on fait des sélections. C'est-à-dire qu'effectivement, là on s'est dit, on a fait théoriquement 10 plans parfaits, et bien on se rend compte qu'ils sont tous à mettre à la poubelle. Voilà. Donc en fait, ce choix se fait en commun. Et on va dire que le dernier mot, quand on arrive au montage proprement dit, revient au monteur. Ça, c'est clair.
Il y a un scénario, il y a un script, alors ?
Il y a un scénario, il y a un script, tout est fait. Alors, c'est évident que c'est difficile de scénariser un documentaire où on est sur du live, mais il faut savoir que dans la réalité, eh ben, il y a souvent des séquences d'entraînement. Bon, ben, Nelly, là, tu repasses, je t'ai loupé. Nelly, repasse, j'entends pas. Ben, le stabilisateur était bloqué. Et en fait, on va faire 5 fois. Donc, il y a un minimum, effectivement, de scénarisation quoi, pour relater une séquence réelle, quoi. Mais voilà, après tout ce qui est textuel, donc toutes les voix qui sont prises en direct, elles ne sont pas écrites. C'est-à-dire qu'on tient vraiment à garder l'authenticité du propos. C'est pour ça que chaque soir, je donnais à Nelly un petit enregistreur numérique comme vous avez pour le reportage. Et en fait, elle parlait. On essayait de s'inspirer de ces textes-là pour écrire effectivement les commentaires, voire de les garder s'ils étaient audibles. Voilà. Donc c'est un travail qui est assez gigantesque. Alors moi j'ai bien été aidé en amont et en aval du challenge, mais par contre dans le challenge j'ai tout voulu faire tout seul, tout simplement parce que le lever c'était 3h du matin, le départ c'était 4h, 4h30, la mise à l'eau c'était à l'aube voire même à la nuit. Ensuite, il y avait des contraintes de tournage. Ensuite, moi, il fallait que j'arrive à suivre Nelly tant bien que mal. Alors, quand il y a une route qui longe le lac, type à Montpezat, ben pourquoi pas. Ensuite, j'ai des points de repère du plateau de Valensol, puisqu'on est sur le 04. J'arrivais à repérer Nelly, mais quand on est à plusieurs kilomètres au-dessus de Nelly, c'est pas évident, un petit point jaune dans les vagues. Donc, il fallait que je scrute aux jumelles. Et j'avais également équipé Nelly d'une petite balise GPS qui marchait quand elle voulait, qui me permettait donc de la repositionner sur un écran. Donc, entre l'écran, ma logique, connaissant la progression de Nelly, son rythme de nage, la maîtrise de l'environnement et des reliefs, on connaît tous les lacs qui ont été faits, on les connaît mètre par mètre, dessus et dessous. Enfin, sauf dans les profondeurs extrêmes. Hein, mais disons que jusqu'à 15 mètres, on peut dire que Nelly les connaît tous. Quoi. Voilà. Tout ça faisait que j'arrivais à suivre Nelly. Et malgré ça, des fois, je ne la voyais plus. Voilà. Alors je l'ai bien précisé dans le film, d'ailleurs on a mis une séquence qui est en live je crois, je sais plus, ou alors c'est un commentaire off, je sais plus, où je dis aux spectateurs que si je devais voir Nelly en difficulté, de toute façon je peux rien faire, point. Les gens connaissent le lac de Sainte-Croix, on m'imagine sur le pont juste au-dessus du barrage, aux jumelles, tranquille, je la vois très très loin du côté de Baudouin et je vois qu'elle coule, je peux rien faire. Si je peux appeler les pompiers. Mais bon, ce sera trop tard. Voilà. Donc, il fallait qu'il y ait une confiance mutuelle, mais vraiment quasi parfaite. C'est pour ça que je le disais souvent, c'est ce challenge qui a duré 11 jours, s'apparente à une véritable expédition. Au niveau de, de la gestion du stress, de la consommation des calories, du métabolisme, ce que vous disiez Nelly il y a deux minutes, ben c'est exactement pareil en expédition polaire. Il faut avoir une maîtrise de soi et une maîtrise de l'environnement. Et la maîtrise de l'environnement, c'est-à-dire la connaissance vraie, la maîtrise de soi, l'expérience, se connaître, donc un travail, ça demande un travail introspectif colossal, fait qu'à un moment donné, on va faire naître ce qu'on appelle l'intuition, quoi. Et généralement, on fait mouche. Voilà. Et ça, tout le monde ne peut pas se lancer là-dedans. Hein. Alors, par contre, des sportifs qui vont traverser le lac de Sainte-Croix en combi de Décathlon, il n'y a pas de souci, quoi. Ces gens-là connaissent leur discipline. Mais la nage où l'on court en milieu naturel, c'est quand même vraiment autre chose, quoi.
Il faut savoir aussi que cette nage-là, c'était sur la partie de challenge, c'était qu'un tiers de la journée. Un seul tiers.
Oui.
Le reste de la journée, en fait, y avait le suivi immédiat. Par exemple, le Fréquence Mistral nous a suivis avec des interviews quotidiennes, mais ce n'était pas la seule radio, le seul média à nous suivre. Donc cette partie suivi immédiat, également les posts sur Facebook, tout ça, ça a pris beaucoup de temps. Il y avait décharger les cartes mémoire, recharger les batteries, faire le point sur le matériel, faire le point sur la journée, refaire le point sur l'itinéraire du lendemain, la météo, les problèmes de dernière minute. Il y en a tout le temps. Et en fait, tout ça faisait que le matin, on se levait à 3 heures du matin à peu près. Et pour attaquer la nage à l'aube, il fallait que je sois sortie autour de 13 heures à peu près, parce que ça pouvait être un peu plus, un peu moins. Ça donnait des journées en fait, où la nage ne représentait qu'un tiers de la journée. Il fallait être frais en sortant de l'eau pour attaquer tout le reste.
Ce qui n'a pas toujours été le cas, à l'étape de Sainte-Croix. Du lac de Sainte-Croix, donc pour les gens qui connaissent, Nelly s'est pas contentée de traverser le lac, elle est remontée dans les gorges, assez loin dans les gorges, donc ça a majoré son étape de 2 à 4 km, je sais plus. Ensuite elle a longé les côtes, ensuite elle s'est fait prendre par une régate qu'elle n'avait pas vue. Alors on parlait des dangers, voilà. Alors il y a des petits engins très dangereux, les planches évidemment, il y a des petits dériveurs légers ou des catamarans de sport qui sont très dangereux. Et en fait, moi j'étais positionné en amont du village de Sainte-Croix, et j'ai vu la régate se préparer. J'ai vu les bateaux comités se mettre en place, mettre les bouées. Il n'y avait pas encore les bateaux. Et là, je me suis dit, ça ne passe pas. Alors, heureusement qu'on avait des rendez-vous radio réguliers avec Taki Walki. Voilà. C'est-à-dire que moi, j'étais tout le temps en veille. Mais par contre, Nelly, elle n'était pas en veille. À heure fixe, elle allumait sa radio, elle envoyait un message. Et là, j'ai croisé les doigts parce que je me suis dit, si jamais elle passe avant l'heure, c'est foutu. Heureusement, ce jour-là, la radio est passée, il y avait Fort Mistral, et je lui ai dit, tu te détournes, elle était déjà très très fatiguée, il y a une régate. Et il a fallu qu'elle rallonge l'étape considérablement pour contourner la régate, ce qui fait que cette journée-là, elle a fait 17 km. Elle est sortie vers 15-16 heures, elle a loupé le point de rendez-vous, moi j'ai commencé à me dire, elle a basculé, mais à la berge, ce qui arrive, faut pas croire, hein. Lorsqu'on relâche, en montagne c'est pareil, hein. En montagne c'est souvent la descente une fois après avoir atteint le sommet qui fait qu'il faut y aller très très doucement. On ne peut pas avoir de relâchement. Moi je pars du principe qu'on se relâche quand on se couche, c'est tout. Il n'y en a même pas dans la voiture, il n'y en a pas sur la route, on n'a pas le droit, c'est tout. D'où la nécessité de fonctionner bien en deçà de ses capacités. Et ce jour-là, elle n'était pas en deçà, et elle est arrivée, c'était un zombie. Elle n'arrivait plus à communiquer, elle avait lâché prise complètement.
Tout à l'heure, on parlait de le repousser vos limites, là, vous aviez explosé, là.
Ah, j'ai explosé. Alors,
à votre insu, hein, quelque part.
À mon insu, oui et non, parce qu'il y a eu une part qui a été volontaire, c'est-à-dire qu'il fallait vraiment que je passe sur un autre mode, un mode non-pensée qui, malheureusement, est quand même allé trop loin. Ce mode non-pensée permet, en fait, de pouvoir aller plus loin dans ses capacités. Et je parlais tout à l'heure des petites veilleuses qu'on peut garder allumées côté sécurité, j'en ai gardé pas mal, mais j'en ai oublié aussi.
Là, vous en avez grillé aussi.
J'ai dû en griller aussi. Ah, il faut savoir que sur un effort comme ça, il y en a plein des grands sportifs, surtout sur tout ce qui est endurance, qui connaissent le principe, on se passe de la musique dans la tête en boucle. Régulièrement, je change de CD, je change de cassette et j'adapte la musique au rythme et au moment. C'est vachement important, mais ce côté qui est quand même hypnotique permet de vraiment aller au-delà aussi, quoi.
Et au niveau musique, vous avez des artistes préférés quand vous les mettez en tête ?
J'avais un artiste qui m'a suivi tout le long de la nage, c'est Alan Stivell.
Ah, vous faites dans le breton.
Absolument, c'est bien en rapport avec l'eau quand même.
Oui, oui, puis Alan Stivell, c'est un des premiers, entre guillemets, écologiques qui a revendiqué, quoi. Hein,
on est bien d'accord.
Dans sa musique et dans ses interprétations. Là, ce ne sera pas Alan Stivell, ce sera un morceau qu'a choisi Bruno Lambert. On va écouter Jacques Higelin. Et on va aller du côté de la Guyane.
c'est fini. Pas de veine, plus de soucis. Cayenne, c'est fini. Pas de lettres de mon ami. Ce n'est peut-être qu'un oubli. Cayenne, c'est fini. Il y en a qui s'aiment jusqu'au martyr. Où il y a de la chaîne, il n'y a pas de plaisir. Les matons m'ont maté. J'ai plus de quoi me relever. Cayenne, bon, 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 bon. Cayenne, bon, 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 bon. J'ai compris. Cayenne, bon, 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 bon. C'est fini, Cayenne. Tant que j'attends ma remise de peine, y'a de la gangrène dans mes souvenirs. Vaut mieux en finir quand ça traîne. J'ai pas envie de moisir ici. Cayenne, c'est fini. Cayenne, c'est bien fini.
Allez les mecs, au boulot. Allez les mecs, au boulot.
Avec sa soupe. Cayenne, c'est fini. Soucis qui a fleuri à Cayenne.
Cayenne,
captivité pas bon.
Cayenne,
tentative d'évasion.
Cayenne,
la prison quadrillée.
Cayenne,
niquée par les képis.
Cayenne,
des matons, des catis.
Cayenne,
quasiment déphasé.
Cayenne,
plaidoirie kamikaze.
Cayenne,
l'avocat dégoûté.
Cayenne,
lui manquait quelques cases.
Cayenne,
système pénitentiaire.
Cayenne,
condamner l'accusé.
Cayenne,
à purger lourde peine.
Casser les cailloux à Cayenne. Casser les cailloux à Cayenne.
Casser les cailloux à Cayenne.
Casser les cailloux.
De l'eau qui coule.
Oui, de l'eau qui coule, oui, oui, sur les cailloux de Cayenne. Donc, vous vouliez faire, pour continuer l'émission de ce matin, parler de tous ces messages qu'il peut y avoir au niveau de l'eau.
Oui, alors, voilà, comme je le disais, le projet La Dame des Lacs, c'est bien sûr l'aventure de Nelly. Mais, donc, cette aventure a été construite pour essayer de sensibiliser l'opinion sur l'eau et ses enjeux. Bon, on parle beaucoup de l'eau ces derniers temps. À mon avis, pas encore assez, puisqu'il n'y a pas assez de prise de conscience. Donc nous, on va rajouter notre couche en faisant effectivement passer le rêve, donc comme vecteur. L'eau, que ce soit en Provence, que ce soit en France, que ce soit sur le pourtour méditerranéen ou sur la Terre, commence à avoir des enjeux multiples et planétaires. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est consommé, s'allie ici, de toute façon, aura des répercussions ailleurs sur la planète. Alors c'est vrai qu'en parallèle du projet La Dame des Lacs, on a construit un projet qui s'appelle H2O. H2O, donc il y a un jeu de mots, c'est pas 2O, c'est 2EAUX, d'accord ? C'est un projet éducatif sur l'eau qui traite justement de l'eau en tant que ressource, de l'eau en tant qu'élément et de l'eau en tant qu'enjeu, quoi. Et c'est important de rappeler effectivement quelques chiffres, à mon avis. C'est souvent comme ça que j'introduis mes conférences, ce qu'on a fait régulièrement, récemment, avec des petits, des ados et aussi des adultes. Et je dis aux gamins très souvent, bon ben moi quand je suis né, on était à peine plus de 3 milliards sur la planète. Aujourd'hui, on est combien ? Les gamins arrivent à dire 7,55 milliards. Je leur dis, quand vous aurez mon âge, il y en aura 9,55 milliards. La seule différence, c'est que quand moi j'étais petit, il y avait 1400 millions de kilomètres cubes d'eau. Aujourd'hui, il y a 1400 millions de kilomètres cubes d'eau. Dans 20 ans, il y aura le même volume. Et à l'époque des dinosaures, il y avait le même volume. C'est-à-dire que cette eau-là, elle est complètement recyclée. D'un côté, on va se dire, c'est beau, on ne va pas manquer d'eau. Non, mais ce n'est pas vrai. C'est qu'entre-temps, elle se charge de polluants depuis l'ère industrielle. Et la nature a le pouvoir auto-épurateur, c'est-à-dire qu'elle va épurer l'eau qui est chargée de particules organiques. Mais là, ce n'est plus le cas. Il y a de la pollution organique, elle a toujours été, ok. Mais par contre, il y a de la pollution chimique, mécanique, la pollution plastique. Donc c'est un fléau, le plastique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça, eh ben, c'est intégré dans le cycle. Alors moi, ce que je dis aux gamins en blaguant, eh ben, je pense qu'un homme de 2100, eh ben, il sera plastifié, quoi, lors d'une prise de sang. On n'en est pas loin. On n'en est pas loin. Il faut savoir que ces particules de polluants de plastique donc, se réduisent en poussière quoi, et sont intégrées dans les cycles des plantes, dans le cycle végétatif, c'est-à-dire que ces végétaux vont être mangés par des prédateurs, des super-prédateurs, et nous, on est encore au sommet. Voilà. Donc, on est en train, tout simplement, indirectement, c'est peut-être brutal, de bouffer nos poubelles. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est un peu choc, et c'est ce qui se passe. Donc ça, il faut déjà le comprendre. Bon, ensuite, autres chiffres qui font peur, enfin moi, ça m'alarme. On sait aujourd'hui qu'un Français moyen, bien loti, là, autour de chez nous, va consommer 150 litres d'eau par jour, sans parler de l'eau virtuelle, c'est-à-dire de l'eau cachée qui est, elle, dans les aliments. Un titre indicatif, ben, pour avoir un kilo de bœuf, il faut compter 1300 litres d'eau. Bon, ça, c'est pas toujours compris par les gens. On en revient à notre eau de consommation quotidienne, 150 litres chez nous. 450 litres aux États-Unis. L'année dernière, il y a eu des pics à 450 litres dans le Var. Il faut savoir. Dans le Sahel, 12 à 15 litres. Ça me paraît pas très, très équitable. Au jour où on déploie haut et fort des étendards sur la solidarité, l'humanisme, l'équité. Donc il y a quelque chose qui coince là aussi, quoi. Donc je pense que si effectivement c'est pas toujours respecté en amont par les gestionnaires, les dirigeants, les politiques, sans aller plus loin, nous, on a notre rôle à faire. On a notre rôle à avoir. Donc ça, c'est important. L'eau en tant que ressource, l'eau en tant qu'élément, l'eau en tant que ressource partagée. Hein. L'eau, ce n'est pas que l'eau du robinet, c'est pas que l'eau de la lessive. Hein. C'est l'eau pour le refroidissement des usines, c'est l'eau pour l'irrigation, c'est l'eau pour les transports maritimes, c'est l'eau pour le loisir. Et effectivement, c'est très, très difficile d'arriver à satisfaire ce monde.
L'eau pour l'irrigation, c'est de l'eau qui coule.
C'est de l'eau qui coule. Mais
qui est réutilisée pour les légumes.
Qui est réutilisée.
Je parle celle-là d'irrigation.
Oui, d'accord. Bon, celle-là, à la limite, passe encore, mais à la limite, à grande échelle, il faut savoir que l'eau qui est utilisée dans l'agriculture se charge de polluants au passage. Ces polluants ne vont plus être digérés par la terre et ne vont plus être digérés par la nature. Donc, en fait, on peut imaginer que les sources vont commencer à sortir polluées. Et la pluie elle-même, de l'autre côté, dans le cycle, est polluée par la pollution atmosphérique. Donc, l'eau qui tombe et l'eau qui sort est déjà polluée. Donc, il arrivera un moment donné où la nature ne pourra plus répondre à cette épuration-là. D'où la nécessité en amont de prévenir les gens et puis de mettre en place des infrastructures pour capter, dépolluer l'eau, etc., etc. Et cette dépollution, ça coûte une fortune. C'est ce qu'on trouve dans la facture, quoi. Voilà. Et c'est qu'un début. C'est qu'un début. Donc moins on polluera l'eau en amont, plus à terme, et bien effectivement, la facture sera allégée, déjà. Et je pense qu'au niveau moral, on se sentira peut-être un petit peu mieux aussi, quoi. Donc ça, c'est quand même très important de rappeler ça à tout le monde parce que cette eau, dans la vie de tous les jours, on a l'impression que c'est aussi évident, clair. Voilà. Alors on dit que c'est un bien commun. Oui, c'est un bien commun, mais ce n'est pas tout à fait vrai. C'est un bien commun pour l'humanité. On peut le croire comme ça, mais en fait, ce n'est pas tout à fait logique qu'elle soit distribuée de cette façon-là, quoi.
Ouais, on fait un parallèle par rapport une marque suisse qui pompe l'eau un petit peu de partout dans le monde. Quoi.
Voilà. Et des cas comme ça, il y en a quand même pas mal. Il y a effectivement ce pompage. Il y a aussi des problèmes de désalinisation aussi quand on est dans les zones arides, dans des zones que j'ai vraiment pratiquées, moi, en expédition. Bon, on voit des oasis pousser à droite à gauche. C'est beau, on se dit, il y a des gens qui arrivent à vivre en plein désert. Le seul problème, c'est qu'ils vont pomper dans des nappes fossiles. Cette eau-là, c'est de l'eau préhistorique, hein, d'accord ? Une fois qu'elle sera pompée, elle sera complètement perdue. Alors, il faut savoir que si on prend les pays très secs et très chauds de la planète, donc le bordure du Sahara, etc., etc., il y a effectivement dans ces secteurs-là, dans la péninsule arabique, des gens qui auront la capacité financière de dessaler l'eau de mer. C'est bien. On n'a qu'à prendre les Émirats, il n'y a pas de souci, ils ont ce qu'il faut pour. On prend le Sahel, il ne faut pas y compter. Quoi. Alors je prends le Sahel maritime, le Sahel atlantique. Et eux ne pourront pas dessaler l'eau de mer. Voilà. Donc ça crée des disparités, moi, qui me choquent. Une fois de plus, quand on ne sait pas, on ne sait pas, mais maintenant on le sait. Quoi. Donc je pense que ça devrait stimuler la responsabilité des gens. Après, nous, notre concept au sein des Marcheurs de la Terre, c'est qu'on ne peut protéger que ce que l'on aime réellement. Voilà. Instinctivement, on protégera d'abord ses enfants avant de protéger ceux des autres. Voilà. Bon, quelque part, c'est un petit peu la même chose dans la nature. Alors, je ne demande pas aux gens de faire un bisou sur la tête de l'araignée, c'est pas ça. Mais qu'au moins, il y ait un petit peu de respect et de regarder le vivant comme on se regarde soi-même. Et je pense que là, on arrivera à un point d'équilibre, à une espèce de bon sens écologique qui est un bon sens humain. Et l'eau, c'est l'occasion de réfléchir un petit peu plus. Par contre, il y a quand même urgence, quoi. Alors, pour essayer de véhiculer tous ces messages, il y a le film, évidemment, La Dame des Lacs. Il y a toute une série de clips qui sont des déclinaisons du film La Dame des Lacs, mais pour les diffusions scolaires. Hein, parce que c'est vrai qu'on ne va pas demander à un gamin d'avoir une attention longue sur 52 minutes. C'est beaucoup trop dur, quoi. Il y a également des expositions, une grosse exposition itinérante H2O qui est disponible actuellement, qui a déjà tourné, hein, qui est très récente, hein, mais qui a déjà tourné un petit peu partout en PACA. Et puis après, il y a également toutes les sorties de terrain. C'est-à-dire que nous, on a plusieurs casquettes. On est également éducateur sportif. Donc, on est habilité à amener les gens sur le terrain et faire des thématiques, des randonnées, des stages thématiques sur l'eau. Alors, l'eau dans l'histoire de la Provence, l'eau des lacs. On a eu comme partenaire EDF qui, effectivement, insistait un petit peu là-dessus aussi. Parce que c'est vrai qu'on voit EDF en tant que factureur d'eau, d'électricité, pardon. Mais il faut savoir que la gestion des grands lacs de PACA leur revient aussi, c'est-à-dire qu'ils ont comme problème la distribution de l'eau. C'est très très important, arriver à satisfaire tout le monde. L'été dernier, comme le disait Nelly, il n'y a pas eu d'eau. Bon, cette année, on en a eu beaucoup. Ça a été difficile de satisfaire les besoins en eau des utilisateurs du Verdon pour le tourisme. Bon, ça s'est su, quoi. Voilà. Ensuite...
Et pour les gamins, ils font le parallèle entre l'époque de Pagnol et notre époque ?
Alors, c'est une très bonne question aussi, parce que en plus, on utilise l'époque de Pagnol comme repère. On utilise maintenant des sources et autres. Ils le font difficilement. Donc, on est obligé de leur passer des images, de leur dire que leurs grands-parents et arrière-grands-parents sont nés à cette époque, qu'à cette époque-là, un paysan qui avait un puits avait de l'or entre les mains. Voilà. Et qu'aujourd'hui, toutes ces zones-là sont recouvertes d'eau et que toute l'économie de PACA aujourd'hui, l'économie touristique et l'eau au robinet, il faut reconnaître que c'est grâce à ces grands lacs artificiels. Bon, il y a des contreparties, un barrage, ça ne fait pas que du bien, ça c'est évident. Mais voilà, il faut reconnaître qu'en PACA, ça a quand même bien changé le cours des choses. Un petit rappel que nous a fait l'un des gestionnaires EDF, il faut se souvenir qu'en 1960, à Saint-Tropez, le touriste moyen, on lui donnait un litre d'eau le matin à 10h, il devait le faire tenir jusqu'à 4h l'après-midi, tout simplement parce qu'il y avait coupure d'eau. 60, moi, c'est les années où je suis né, quoi. Donc, c'est pas non plus si vieux que ça, quoi. Voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit plus ça comme ça, quoi. Donc, c'est important. Alors, effectivement, c'est bien de faire un clin d'œil sur l'époque de Pagnol, parce que l'eau, c'est aussi un voyage dans l'histoire. Moi, j'aimais bien, quand j'étais gamin, il y avait le docteur Bombard. Je pense que les gens de ma génération s'en souviennent. Il faisait pas mal d'interventions à la télé. C'était un plongeur. C'est celui qui a réalisé la première traversée atlantique sur un canoë, un Zodiac, qui est devenu un Bombard par la suite, en solitaire. Et il criait haut et fort, n'oubliez pas que nous buvons la pisse des dinosaures. Voilà. Alors c'est un slogan que j'ai ressorti, ça fait rire certains, et pas d'autres. Alors du coup, je suis obligé d'expliquer le grand cycle de l'eau. Le cycle, il est spatial, c'est évident, mais il est également temporel. C'est le même.
Voilà. C'est le même qui filtrait l'eau de mer pour boire.
Hein. Pareil, voilà. Donc, alors c'est vrai qu'on fait un rappel sur le cycle de l'eau, on fait un rappel sur l'auto-épuration de l'eau, On fait un rappel sur l'eau dans le monde, ben, pour essayer de montrer aux petits gamins, je parle des gamins, mais ça va être aussi des adultes, les interventions qu'on va commencer dès la semaine prochaine, ce sont des adultes, ben, qu'un estivant qui est au Salles-sur-Verdon ou à Sainte-Croix cet été, n'hésitera pas à faire tourner 250 litres s'il le faut. Pendant ce temps-là, ben, y a les petits Sahéliens qui en ont 10 ou 12. Quoi. Voilà. Bon. Donc il y a un gros travail à faire là-dessus. Alors un petit rappel peut-être aussi sur les dates.
Voilà, Nelly va nous dire un petit peu les dates de projection.
Alors il faut d'abord comprendre que les projections de cet été, en fait, elles sont tout public, elles sont gratuites, elles sont organisées en fait par les Écrans du Lac et le cinéma de plein air, donc le cinéma 04. Ce cinéma de pays, en fait, les Écrans du Lac, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des écrans en fait qui sont itinérants sur certains lieux qui sont généralement touristiques au bord des lacs. Alors l'écran, par exemple, il peut faire jusqu'à 50 mètres carrés. Tout le monde peut venir. L'avant-première, qu'est-ce que c'est ? C'est la sortie du film, la première projection du film. C'est le 19 juillet au Petit Lac à Moustier. Alors, il faut évidemment qu'il fasse nuit. Pour ceux qui connaissent le Petit Lac à Moustier, c'est évident. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est facile à trouver. Il suffit de regarder sur Internet. On parlait tout à l'heure du dilemme qu'on peut avoir sur Internet. C'est un outil qui est aussi formidable. On peut y trouver beaucoup d'infos par rapport à la curiosité. Ben là, on peut trouver tout simplement l'info, comment y aller. Il faut qu'il fasse nuit. Alors, nuit, c'est 21h30 pour l'avant-première. Ensuite, il y aura d'autres projections. Donc ça, c'était l'avant-première, le 19 juillet. D'autres projections, il y a le 26 juillet à la Maison des Eaux et de l'Énergie. Là, on est du côté de Serpenson, on est sur Rousset. Là, ce sera sur 21h. Ensuite, il y a une autre projection. Et là, on sera aux Salles-sur-Verdon. On bascule sur le Var. Les salles, c'est le 16 août. À 21h, donc sur la place du village. Et le 18 août, quasiment sur la plage, à la base de loisirs, ce sera sur le lac de Sainte-Croix, et précisément au village de Sainte-Croix. Et là, ce sera le 18 août, pareil, à 21h. Alors, ce sont des manifestations qui ont été rendues possibles aussi grâce à des structures et des personnes, notamment EDF Hydraulique PACA. Il y a eu la mairie des Salles-sur-Verdon. Il y a eu aussi l'Office de tourisme de Moustier. C'est important aussi de citer ça parce que ces manifestations qui sont gratuites, elles sont vraiment ouvertes à tous. Il y a un côté vraiment très, très, très ludique. Et il y a également l'association CLP, c'est-à-dire Culture, Loisirs, Patrimoine de Sainte-Croix. Et moi, personnellement, je pense que Bruno aussi, on voudrait bien remercier également Bernard Chouyal qui fait partie de cette association et des Écrans du Lac qui nous a permis aussi ces projections-là.
Alors, un petit rappel. Donc, Les gens doivent... c'est du cinéma en plein air, ouvert à tous, évidemment. Les gens peuvent s'asseoir par terre, mais par contre, les personnes qui ont des soucis, personnes âgées, sont invitées à prendre leur chaise pliante.
Les personnes à mobilité réduite.
Voilà. Donc c'est quand même assez important. Parce qu'il me semble qu'il n'y a pas de chaise ou quoi que ce soit. Hein. Donc
non,
chacun
c'est pas,
vient
c'est
avec son
pris.
Siège. Bon, ceci dit, tout le monde se met où il veut, quoi. Alors, ce n'est pas qu'une projection, hein, c'est-à-dire que nous, on accompagne la projection. Nelly parlera de son aventure, moi, je parlerai de la réalisation, de l'eau à la demande des gens. Nous, on a pour principe avec Nelly de ne pas se limiter dans le temps, c'est-à-dire que tant qu'il y a de la demande, on sera présent. Tant qu'il y aura de l'éveil, on répondra. L'objectif, OK, c'est d'animer, c'est de distraire quelque part, mais aussi l'objectif, c'est d'éduquer dans la convivialité. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très primordial. Cet automne, dans la lancée effectivement des Écrans du Lac, il y aura un autre festival, c'est Inventaire. Donc là, ce sera sous l'angle écologique. On en reparlera, je pense. Mais il y aura également d'autres projections, quoi. Voilà ce qu'on peut dire, je pense, sur les projections de l'été.
Ouais, je pense que c'est bon. Après, il faut savoir que ce film, pour l'instant, on va d'abord pouvoir le voir donc, sur ces projections-là. Mais par la suite, il va y avoir aussi des possibilités de l'acheter. Donc sous forme de DVD, sous forme de téléchargement. Alors on y reviendra, je pense, quand on repassera ici également pour parler du festival Inventaire. Mais c'est un outil, ce film-là. Donc c'est un outil qui est généralement destiné à être accompagné par notre présence, projection, donc projection débat. Mais c'est aussi un film qui peut être vu par tout un chacun, qui peut avoir un regard un petit peu curieux. Et l'idée, en fait, c'est vraiment de stimuler la curiosité. Parce que c'est vrai qu'on l'oublie facilement, mais la curiosité, le manque de curiosité, c'est un petit peu le mal du siècle.
Si vous me l'accordez, je voudrais faire deux remerciements particuliers. Un film, c'est une grosse logistique. On a fait des images de drones et on a une musique que je trouve assez sympa. On a volontairement choisi donc des prestataires locaux. Voilà. La musique est de Clément Garcin, donc Clément Garcin, qui est un jeune compositeur originaire de Prats, voilà, qui nous a fait la musique de ce film et qui fera probablement d'autres musiques, quoi. Et les images de drones ont été faites par Aérodrone Productions, et je pense que c'est Stevie Clémenté, qui lui est donc pilote et caméraman de drones, qui lui est également basé donc, sur Drex. Donc on a fait quand même du local. Voilà.
Du bien local, effectivement.
Voilà, voilà. Et ce sont des passionnés.
Voilà. Merci Nelly, merci Bruno.
Merci à vous.
À bientôt. Vous aviez la tête dans l'eau, on se quitte avec Tête en l'air, toujours Jacques Higelin.
Pianos à queue dans la boîte aux lettres, des pots de yaourt dans la vinaigrette et des oubliettes au fond de la cour.
Nous, on n'entend pas. Hein.